Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Parce que quelquefois c'est flou quand on dit il faut aimer Jésus, il faut servir Jésus. Oui, quand nous aimons Jésus, nous aimons sa parole.
Amen.
Quand nous servons Jésus, nous servons sa parole, ça veut dire que nous mettons la parole de Dieu en pratique dans notre vie. Et nous avons parlé de l'importance de fixer nos yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Et quand nous avons nos yeux sur les circonstances, on a appelé les circonstances quoi? Vous vous rappelez? On les a appelées des... Vous vous rappelez, non? Elle m'écoute bien. Ok, tournez avec moi en 2 Corinthiens chapitre 4. Ce matin, nous voulons parler du fait qu'il faut prendre la direction de votre vie entre vos mains.
Non! Pourquoi faire une chose pareille? Parce que si on fait une chose pareille, alors c'est le destin! C'est tout le destin. C'est pas nous qui faisons ça, non. C'est notre karma.
Notre karma. Le chant préféré de certains chrétiens, c'est « Que sera, sera ».
Ouais,
c'est, tu sais, il dit, 2 Corinthiens 4, 16, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. » Tout le monde dit « Je ne perds pas courage. » Comment est-ce possible? Il dit « Laisse que même que notre homme extérieur se détruise, notre homme intérieur se renouvelle, comment? De jour en jour. Car nos légères afflictions de moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, une poids éternel de gloire. Et le prochain verset et phrase est très important parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Ça, c'est la foi. La foi regarde les choses invisibles. Et il dit, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Et c'est pourquoi je dis, il faut regarder à Jésus, il faut regarder à la parole, il faut trouver les promesses de Dieu dans la parole, parce que ces promesses, si vous les fixez, si vous les mettez dans votre cœur, si vous commencez à les déclarer, elles vont devenir réalité dans votre vie.
Est-ce que je dois avoir une intervention chirurgicale pour le mettre dans mon cœur?
Ça, c'est une bonne question, n'est-ce pas? Parce que quelquefois, on dit, mettre la parole de Dieu dans notre cœur, on dit, comment? C'est bon de le dire, n'est-ce pas? C'est bon de croire, il faut le faire, mais comment? Comment est-ce qu'on peut assurer que la parole de Dieu vienne dans notre cœur? Quelqu'un a une réponse?
En la lisant.
Qui croit qu'on peut faire entrer la parole de Dieu en la lisant? Je crois que c'est un très bon commencement, mais ça ne suffit pas seulement de lire. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Il faut
pratiquer.
Il faut pratiquer, il faut la mettre en pratique, oui. Et quoi d'autre? Pardon? Quelqu'un dit méditer? C'est qui dit méditer?
Avec nos jambes croisées.
Ah, d'accord. Donc, position yoga, on va méditer, on fait de la méditation. Qui croit qu'on doit faire
avec
la méditation?
Des bougies et tout ça, c'est ça? Oui.
Écoutez-moi bien. Le monde et toutes les religions ésotériques, c'est ça?
Oui.
Ouais. Ont pris les choses de la Bible et les ont tordues. Ouais. Et la méditation transcendantale, l'idée de vider, comme on dit, ton esprit, ouais, n'est pas biblique. Et même, je vous dis, c'est très dangereux. Parce que le vide n'existe pas dans ce monde. Ça veut dire que tu vides ta tête, quelque chose va venir le remplir. Et peut-être quelque chose que vous ne voulez pas. La méditation biblique, c'est le contraire. Non pas de vider, mais de l'emplir. Ça veut dire quoi? C'est de prendre un verset, de prendre une promesse de Dieu, quelque chose qui vous concerne, et le dire, et le tourner dans sa tête. Et la méditation, oui, il faut prendre une position, une posture, une attitude de paix, de calme. Peut-être pour vous, c'est dans la maison, dans une forteresse confortable. Pour moi, c'est plutôt en courant ou en marchant que je médite. Oui, je suis mieux dehors la maison, parce qu'à la maison, il y a toujours les choses à faire, n'est-ce pas? Les téléphones qui sonnent et tout le reste. Oui. et je vais passer ça dans ma tête. Je médite la parole de Dieu, je passe ça dans ma bouche, le temps dans ma bouche, je le dis à moi-même, voici ce que dit la parole de Dieu. Quelquefois, je commence comme ça avant que je puisse dire, je crois ce que la parole... Mais la méditation va faire entrer la parole de Dieu dans votre cœur.
Et moi, j'ajouterai quelque chose. Quand vous êtes en train de lire votre Bible, prenez le temps de le lire à haute voix. Vous croyez vous-même plus que n'importe qui.
Amen.
Et quand vous prenez le temps de le lire à haute voix, vous lisez plus lentement. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pour ça, mes amis, c'est bon pour vous-même de lire à vous-même la parole de Dieu.
Amen. Donc je veux reprendre ce chapitre, d'accord? Parce qu'il y a des choses à voir. Parce que quelquefois, et c'est vrai, dans cette église, vous n'entendrez rarement les gens en train de se plaindre.
Parce qu'on le vire.
Non. Elle est américaine, d'accord? Non, c'est pas parce que nous virons les gens qui se plaignent, c'est parce que nous avons trouvé que se plaindre, c'est de regarder les choses visibles qui sont passagères. Et j'ai dit ça la semaine passée, mais je veux le répéter aujourd'hui. Hein? Quand quelque chose se soulève dans ta vie, un obstacle, un problème, une situation, vous avez besoin de lui dire, tu es passagère. Pourquoi? Parce que je vais te changer avec la vérité éternelle de la parole de Dieu. Amen. Non, nous ne verrons pas les gens qui ont des problèmes, nous voulons tous les gens qui ont des problèmes. Mais ils ne vont pas regarder leurs problèmes. S'ils mettent en pratique la parole de Dieu. Et beaucoup d'entre nous ici, beaucoup d'entre vous, peuvent témoigner du fait que vous êtes arrivés en Christ, vous êtes arrivés dans cette église, mais surtout arrivés en Christ, vous avez invité Jésus dans votre vie avec plein de problèmes. Mais aujourd'hui, une grande majorité, pas tous, mais une grande majorité de ces problèmes sont réglés. Est-ce qu'il y a des gens en levant la main qui peuvent dire ça? Vous avez vu Dieu intervenir dans votre vie. Regarde autour de vous. Ah, ça, c'est pour vous encourager. S'il y a des gens ici, aujourd'hui, qui ont des graves problèmes encore, moi, je vous dis, continuez à croire. Continuez, oui, à venir et lire ta Bible et entrer dans le groupe de maison parce que vous allez voir ces problèmes résolus en Jésus.
Et tu sais ce qu'on peut faire de plus? On peut parler en langue. Parce que nous avons la capacité de parler de notre cœur à notre Père Céleste dans un langage que le diable ne comprend même pas. Et on peut parler ces mystères. On peut dénouer les projets que l'adversaire a mis contre nous. Le diable ne connaît pas l'avenir, mes amis. Il veut vous faire quoi avec les tarots, avec le voyant, avec le Ouija board et toutes ces autres choses, l'horoscope, toutes ces choses. Il veut nous faire quoi qu'il connaisse l'avenir. Il n'a aucune idée. C'est pour ça que vous êtes un cauchemar pour le diable. Et c'est pour cela que vous êtes un meilleur accordant. Le diable ne sait pas l'avenir. Mais quand vous êtes en train de parler en langue, quand vous commencez à dire, quand tu commences à laisser ton cœur parler à ton Père Céleste, vous êtes en train de vous édifier, vous êtes en train de vous fortifier, et vous êtes en train de mettre les choses en place. Vous êtes en train de prier la parfaite volonté de Dieu pour vous. Et votre tête ne peut même pas dire, non, arrête! Parce que c'est incompréhensible. Sauf si vous demandez à l'interprétation de votre langue.
Lisons ensemble, à partir de verset 8, toujours de 2 Corinthiens 4. Fixons un regard sur Jésus, mais aussi prenez en main la direction de votre vie. Je trouve trop de chrétiens sont passifs et se laissent avoir par le diable, par les secondes d'ange.
Pasteur, prie pour moi! Oh, j'ai tellement pas mon pasteur!
Vous savez, on peut aider les autres par nos prières. Mais vous savez, normalement, une fois, deux fois, même peut-être trois fois, mais après, si les gens ne sont pas prêts eux-mêmes à s'engager avec Dieu, à s'accrocher avec Dieu, nous ne pouvons plus les aider.
Et c'est pas qu'on a perdu une option. Pas du tout.
C'est que Dieu veut une relation personnelle avec chacun d'entre nous.
Hallelujah!
Donc nous pouvons prier pour vous, mais nous préférons prier avec vous.
Amen.
Amen. Nous pouvons chercher les versets pour vous, mais nous préférons que vous cherchiez les versets et que nous travaillions ensemble. C'est l'idée des groupes de maison. Ouais, c'est qu'ensemble, on commence d'ouvrir la Bible et on discute. Et qu'est-ce que vous en pensez? Je vois ceci et qu'est-ce que vous voyez? Et ça nous fait grandir dans le Seigneur. Amen. Laure et moi, nous vivons le ciel sur terre.
Nous et on rit aussi.
On a certifié quand même 28 Amen. Ans de vie de conjugal heureux.
Yeah.
Amen. Dieu est bon envers nous. Mais je veux que vous compreniez, il faut que vous décidez la direction de votre vie. J'étais en train de courir ce matin, j'étais autour du port, et le Seigneur m'a donné une image. Peut-être cette image va vous aider. Donc, qui conduit la voiture? Est-ce que c'est la carrosserie? Est-ce que c'est le moteur qui conduit la voiture? Non. Est-ce que c'est le volant?
Non.
C'est qui? C'est le conducteur, d'accord? Si vous imaginez votre être comme la voiture, ce n'est pas à votre corps de conduire la direction de votre vie, n'est-ce pas? Amen. Ce n'est pas pour votre intelligence, votre tête, de prendre la décision, n'est-ce pas? C'est l'homme intérieur. C'est pas mal comme image, non? Il faut que nous laissions l'homme intérieur de prendre la direction. Et comment est-ce qu'il va le faire? Écoutez ces écritures. À partir de verset 8. Paul dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans la quoi?
Désespoir.
Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort du Seigneur Jésus-Christ, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. La vie de Jésus manifestée dans notre corps, c'est la santé, mes amis.
Amen.
Amen. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifesté dans notre chair mortelle. Verset 12. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même, qu'est-ce qu'il dit là dans votre Bible? Esprit de foi. Est-ce que vous avez cet esprit de foi? Quel esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture? J'ai cru, c'est pourquoi, quoi?
J'ai parlé.
Nous croyons et c'est pour cela que nous
parlons,
sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence.
Alors, on parle de quoi?
Mais on parle des circonstances.
Nos problèmes?
Les problèmes de la vie.
Alors on dit, oh Seigneur, je suis tellement embêté par mes voisins. Ils se lèvent trop le matin et ils mettent à fond la télé. Mm-hmm. Et c'est ça?
Oui, mais vous êtes seulement en train de déclarer vos circonstances. Ouais, est-ce que les circonstances vont changer parce qu'on les déclare? Est-ce que à la télé, les nouvelles changent ce qui s'est déjà passé? Non, ils sont en train de raconter ce qui est déjà arrivé, n'est-ce pas? Si nous voulons changer les choses, il faut que nous disons d'autres choses. Et je cherche Joël. Quelqu'un a vu le prophète Joël?
C'est dans l'Ancien Testament, chérie.
Ah, merci. Avant Malachi. Joël dit... Je cherche le verset, j'ai cru que c'était 2.25 dans nos recherches. Il dit que le faible dise, c'est 3 versets, c'est 11, 10 peut-être, hein? Oui. Il dit que le faible dise, qu'est-ce qu'il dise? Je suis fort. Que le pauvre dit, je suis riche. Que la maladie... Non, mais je ne peux pas dire ça parce que tant que je ne vois pas, je ne crois pas. Tant que vous ne direz pas, vous ne le verrez pas. Est-ce que je peux vous montrer quel doit être le volant de votre vie? à mettre dans la voiture. Vous savez, si on enlève le volant, c'est difficile à conduire. Est-ce que vous imaginez que vous rentrez, vous ouvrez la porte de la voiture, vous montez dans le car, et le chauffeur du car dit, je ne peux pas partir. Vous dites, pourquoi? Quelqu'un a volé le volant. Vous imaginez ça? Mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Ça peut être la voiture le plus magnifique du monde, le plus cher du monde, le plus puissant du monde, mais sans volant, on ne peut pas aller très loin. Vous êtes d'accord? Tenez avec moi en Jacques chapitre 3. On a lu Joël qui dit que le faible dise, je suis fort. Comment est-ce que je peux dire? C'est cet esprit de foi. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Si vous croyez la Bible, il faut le dire. Est-ce que vous m'entendez? Laure et moi, nous avons tracé devant nous les choses que Dieu a mis dans notre cœur. Rebecca a mis sur cette petite vidéo. Dieu m'a donné un mot. Quand j'ai cherché sa volonté pour ma vie, il m'a donné le mot la France. Et dès ce moment, nous avons déclaré, Dieu nous veut en France. À notre mariage, pour la célébration après notre mariage, nous sommes levés pour dire à tous les invités, et plein de monde qui sont venus, nos amis de la faculté qui sont descendus, on a loué un car pour eux, pour qu'ils puissent venir. Et on l'a déclaré à tout le monde. On ne savait pas ce qu'on allait faire. On ne savait pas où on allait vivre. On ne savait pas à l'époque qu'on serait pasteur, mais on avait une parole et on dit France. Et on dit, on va servir le Seigneur en France. On le savait, donc on a déclaré ce que Dieu nous a dit. Et on dit, on ne sait pas comment, ou avec qui, ou où, mais on sait ce que Dieu nous a dit de faire. Il nous a dit d'annoncer sa parole et d'encourager les gens de marcher avec Jésus. D'accepter le Seigneur, de baptiser du Saint-Esprit, de voir les malades guéris, ça on savait. Mais il y a énormément de choses qu'on ne savait pas, mais on commence à dire la France. Et quand Dieu nous a envoyés aux États-Unis, il nous a dit de faire l'école biblique, on a dit oui. Mais avec une seule chose, c'est qu'on revient et on va en France. Tu nous as dit France.
Et les gens n'ont pas voulu qu'on aille à cette école biblique. Ils ont dit, mais c'est mieux que tu vas à Lausanne, en Suisse, comme ça, Laure va pouvoir apprendre le français. C'est illogique de partir aux États-Unis parce que c'est tellement plus facile à traverser la Manche que d'aller aux États-Unis. Mais on avait besoin d'aller aux États-Unis pour apprendre ce message de la foi. Parce qu'on vivait cette chose déjà dans notre vie, mais on n'avait pas les paroles pour exprimer ce qu'on vivait dans nos cœurs. On était déjà dans le ministère, on déjà produisait des fruits. Et souvent, vous allez trouver des gens autour de vous qui ont une qualité de vie qui est remarquable, mais qui ne sait pas comment dire, Jésus, je te veux en tant que Seigneur et Sauveur. Et tu vas leur dire, si tu crois dans ton cœur et tu confesses que tu es le Seigneur Jésus, tu peux être sauvé. Et les gens m'ont dit, mais c'est tout? J'ai cru qu'il fallait que je fasse ça, 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 ça et cela. Et tu dis non. La Bible dit en Romains chapitre 10, verset 9, si tu crois dans ton cœur et tu confesses de tes lèvres le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Est-ce que tu veux le faire? Et les gens vont dire, volontiers. Et ensuite, tu vas avoir la joie de voir ces personnes mettre de nouveau. Et ensuite, tu vas dire, maintenant, vous avez besoin de la puissance de Dieu. Alors, on va prier ensemble. Répète après moi. Seigneur Jésus, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Et maintenant, maintenant même, je veux le baptême du Saint-Esprit. Je veux ouvrir mon cœur, ouvrir ma bouche et parler de mon cœur à ton cœur. Alors, j'espère maintenant de parler de ce langage de vie. Et tu vas les inciter et les encourager et ils vont déconnecter. Ils vont se connecter. Ça va couler de leur fond intérieur. Et les gens, les problèmes vont être mis en place. Parce qu'ils vont voir le problème sont bien dessous eux parce qu'ils sont assis dans le lieu céleste avec Christ Jésus. Ça, c'est notre place normale. Nous ne sommes pas ici des pigeons. Nous sommes des personnes ici pour régner avec Dieu. Il nous a donné la capacité de dire sa parole. Et quand nous le disons, les anges, les multitudes sont libérés pour mettre la situation en place.
Alléluia.
Amen.
Vous savez, quand les choses commencent à se mettre en place dans votre vie, vous commencez à vivre bien dans le Seigneur, vous voyez vos problèmes résolus, et vous commencez à voir la santé s'établir dans votre vie, et la bénédiction dans ce que vous faites, les gens vont vouloir vous élever et mettre sur un pédestal. C'est-à-dire, vous êtes des gens très...
élus! Oui. Oh, vous bénis. Êtes des gens remarquables!
Vous avez quelque chose de particulier. Et les gens ont fait ça à nous. À maintes reprises, quand on était dans un tout jeune couple, ils ont toujours dit, mais vous avez quelque chose de particulier avec Dieu. Et on dit, mais on n'avait pas, on ne savait pas comment expliquer aux autres comment ils pouvaient vivre les mêmes choses que nous. Et c'est pourquoi Dieu nous a envoyés dans cette école biblique. Amen. Je veux vous donner cette clé qui est le volant de votre vie. Vous êtes l'homme qui doit décider ce que tu veux de ta vie. Amen. J'espère que vous allez toujours prendre les décisions à l'intérieur avec Dieu. Parce que quand vous trouvez la volonté de Dieu, vous fassiez la volonté de Dieu, les choses vont beaucoup mieux. Souvent les gens prennent les décisions et après demandent la bénédiction de Dieu et Dieu va vous bénir autant qu'il peut. Mais il faut savoir que ce qu'il a tracé pour vous est déjà béni. Mais le volant, regardez, vous êtes en Jacques, chapitre 3, verset 2. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point, qu'est-ce qu'il dit dans votre Bible? En parole, c'est un homme parfait. Donc, est-ce qu'il y a des hommes parfaits ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne branche pas en parole? Est-ce que vous connaissez un homme parfait? Ah non, je dis pas à part. Est-ce que vous connaissez un homme parfait? La réponse est oui. Il s'appelle
Jésus.
Et si vous regardez, si vous lisez les évangiles, vous allez voir, et dans l'Apocalypse aussi, il parle, vous allez voir que ses parents sont parfaits. Ils ne branchent pas en parole. Les gens l'attaquent, les gens veulent sa mort, mais ils ne branchent pas en parole, et c'est pourquoi on peut dire Jésus est l'homme parfait. Amen. C'est pourquoi il peut être le sauveur et le Seigneur de notre vie, parce qu'il est parfait. Vous me suivez? Amen. Donc nous voulons nous diriger vers cette perfection, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? C'est le but, n'est-ce pas? C'est d'arriver à cette perfection. Oui. Il dit... Si quelqu'un ne branche pas une parole, c'est un homme parfait, coupable.
Coupable
ou capable?
Capable.
Capable de tenir tout son corps en bride. Quelqu'un a déjà fait du cheval? Donc vous savez comment diriger le cheval, n'est-ce pas? Il y a un bride dans la bouche, n'est-ce pas? Et on tend à cause de cela. Bien que le cheval est beaucoup plus puissant que nous. Vous êtes d'accord? Si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouverneur. J'ai parlé du volant, mais j'aurais pu parler du gouverneur. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Au gré du pilote. Qui est le pilote chez vous? Qui est le pilote chez vous? Non, c'est pas Jésus.
Vous avez de libre arbitre.
Si c'est Jésus, vous ne pécherez jamais. C'est moi. Mais c'est pas moi extérieur que tu vois.
On n'est pas des robots.
C'est moi l'intérieur qui est né de nouveau, n'est-ce pas? Si il écoute Jésus, s'il marche dans les traces de Jésus, oui, on peut dire Jésus dirige ma vie, mais c'est moi qui prends la décision, n'est-ce pas? Amen. Donc, comment diriger, comment assurer la suite de ma vie? Il va nous dire, il dit, de même, la langue est un petit membre. Est-ce que quelqu'un connaît le poids ou la taille de la langue? C'est tout petit quand même, n'est-ce pas? En comparaison du reste de notre corps, c'est un petit membre. Il dit... La langue est un petit membre, elle se vante des grandes choses. Oui. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres. Qu'est-ce qu'il dit? Suivant tout le corps et enflammant le corps de la vie, étant elle-même enflammée par la Géhenne. Toutes les espèces des bêtes et d'oiseaux, des reptiles et d'animaux marins sont domptées, ont été domptées par la nature humaine, mais la langue, aucun homme ne peut le dompter. C'est une main qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture? L'eau douce et l'eau amère. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Mes amis, est-ce que vous voyez le volant de votre vie? Amen. Est-ce que vous voyez le gouvernail de votre vie? Oui? C'est quoi? C'est la langue. Et c'est votre langue. C'est votre
bouche. Et si on prend un vœu de silence?
Oui, un vœu de silence. Est-ce que quelqu'un a vu dans la Bible où il est marqué qu'il faut prendre des vœux de silence? N'est-ce pas, vous raconter une petite histoire, parce que le jeune homme qui m'a emmené au Seigneur, qui a partagé Christ avec moi, il était un professeur étudiant à l'école où je suis allé. Donc il m'a impressionné, il m'a rien dit de Jésus à l'école, mais quand je suis allé à ce groupe de jeunes, ouais, où mes sœurs sont allées, j'ai trouvé, et il était un des dirigeants. Et c'est lui qui a prié pour moi pour inviter Jésus d'entrer dans ma vie. Je l'avais vu cet homme, j'étais tellement impressionné par lui, et après j'ai trouvé qu'il était chrétien. Certaines personnes, ils vous ont vu, et ils ne savent pas pourquoi ils sont impressionnés par votre vie. Ils ont besoin d'entendre. Et il m'a annoncé l'évangile, il a prié pour moi, ouais, donc d'inviter Jésus dans ma vie. On a perdu vue, et j'ai entendu qu'il est entré dans mon esprit, il a fait un vœu de silence. Pendant 3 ans, il n'a pas parlé. Un homme qui avait amené beaucoup de jeunes hommes, comme moi, au Seigneur. Combien j'étais triste. Et vous savez, quand il est sorti de ce monastère, ouais, il était confus. Il n'y a marqué nulle part dans la Bible, ouais, qu'on doit faire des vœux de silence. Je ne dis pas, la Bible montre que Jésus s'est éloigné des autres. Il est parti quelquefois toute la nuit. Quelquefois, il s'est écarté pour passer du temps avec le Seigneur. Et je crois que nous avons tous besoin de nous éloigner des autres de temps en temps pour avoir du temps avec le Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord?
On a tous besoin. Je vous ai donné 2 oreilles et 1 bouche. Ça veut dire qu'il faut qu'on prenne plus de temps pour écouter que de bavarder.
Mais Jésus n'a pas dit « Allez vous enfermer quelque part ». Il a dit « Allez par tout le monde et prêchez l'évangile ». Dieu veut qu'on parle. Amen. Dieu veut qu'on annonce des bonnes choses.
Oh, on n'a pas besoin de dire « Vous êtes pécheurs, vous allez cramer en enfer. Vous allez avoir le ver de terre qui va vous ronger le chair. Si vous ne répondez pas aujourd'hui, arrêtez de boire, arrêtez de fumer vos cigarettes, sinon... » C'est ça?
Est-ce que c'est la bonne nouvelle?
Non.
Parce que moi, j'ai vu ça nulle part dans la Bible. Oui, oui, nous avons besoin de parler d'une bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est mort à notre place. Il a prié la peine qui était la nôtre, oui, là, qui nous condamnait, et il s'est permis d'être cloué sur une croix. Et j'entends certains chrétiens prêcher, et en réalité, ils sont seulement en train de faire l'œuvre du diable. Ils culpabilisent et ils condamnent les autres. Laisse le Saint-Esprit faire son œuvre. C'est lui qui convainc les gens du péché. Dites aux gens comment ils peuvent vivre bien en Christ. Dites aux gens ce que Dieu a fait dans ta vie.
Amen.
Parle une bonne nouvelle aux gens. Les gens savent combien la vie est moche. Les gens ont peur. Ceux qui ont moins, qui ont eu une certaine éducation religieuse, ils ont peur de l'enfer. Ils croient. Ils veulent dire qu'ils ne croient pas, mais beaucoup croient en Dieu et au diable. Et ils ne veulent pas aller en enfer, mais ils ne savent pas comment aller au ciel. Prêchez la bonne nouvelle, dites-leur que la porte est ouverte.
Il avait une femme, et un jour le diable lui a apparu en personne. Alors il commence de menacer, de harasser, d'insulter. Cela ne se fait ni chaud ni froid. Alors finalement le diable s'était, et il a dit, mais madame, pourquoi vous ne disiez rien? Je suis ici en personne, je vous menace, je fais toutes ces insultes. Elle dit, écoute, ça fait 30 ans que j'ai épousé ton frère. Certaines personnes vivent dans une situation d'enfer actuelle. À l'extérieur, c'est tout beau. Mm-hmm. Tu crois parce qu'ils vivent dans une belle situation, qu'ils sont à l'abri, qu'ils n'ont pas le cœur en miettes. Ou parce qu'ils sont souriants. Mais mes amis,
Sans Jésus, les gens sont vraiment en train de souffrir.
Sans Jésus, nous sommes perdus. Sans le savoir. Moi, je ne savais pas que j'étais perdu.
Mais tous les routes vont au ciel.
Oui, et tous les chemins mènent à Rome. Mais j'ai pris des milliers. J'ai fait peut-être 1 million de kilomètres dans ma vie. Et je suis arrivé qu'une fois à Rome. D'accord? Tous les chemins ne mènent pas à Dieu. Toutes les religions ne mènent pas à Dieu. Il n'y a que la foi chrétienne qui a l'assurance
du salut. Mais il faut qu'on accepte tous ces gens. Parce que tu sais, ils sont en train de faire le mieux.
Je crois qu'il faut aimer tout le monde. Et il faut les respecter. Il ne faut pas mépriser les autres. Mais parce que quelqu'un prie ne veut pas dire que leurs prières sont exaucées. Vous priez les arbres et les pierres, ils ne vont pas vous répondre. Je suis désolé. Vous priez des faux dieux, rien ne va se passer. Je ne prie pas des saints. Je ne prie pas les gens qui sont morts. Ils peuvent avoir un excellent témoignage, nous montrer comment vivre avec Dieu. Mais pourquoi leur prier? La Bible dit que nous prions Dieu le Père au nom de Jésus. Amen. Et moi, je sais que quand je prie sans la parole de Dieu, j'ai des résultats que la parole de Dieu promet. Et nous avons besoin de respecter l'être humain qui est devant nous. Nous avons besoin d'aimer cette personne, peu importe quelles sont leurs situations, leurs problèmes, les aimer parce qu'ils sont, la Bible dit, créés à l'image de Dieu, et vivre devant eux le bonheur d'être chrétien, et si nous avons la possibilité, leur parler de Dieu.
Il faut que nous n'ayons pas honte de l'évangile.
Amen. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Regardez avec moi en Hébreux 13. Nous sommes en train de dire que nous pouvons diriger, nous pouvons décider la direction de notre vie par notre bouche, par notre langue. Ce que vous dites va s'accomplir. Et moi, j'ai entendu ceci et ça m'a vraiment perturbé au commencement. On m'a dit que je vivais le résultat de ce que j'avais déjà dit. Moi, j'ai cru que je vivais le résultat de mon éducation. Je croyais que j'étais le résultat de ma culture. Je croyais que j'étais donc le résultat de l'économie dans laquelle je vivais. Et j'ai appris que la Bible dit que nous mangeons le fruit de nos parents.
Mais c'est plus facile de mettre le blâme sur le dos de quelqu'un d'autre.
Ah oui, mais on est très fort pour cela, n'est-ce pas? Accuser les autres, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre.
C'est dès le début, il a dit, c'est à cause de cette femme que tu m'as donnée. N'est-ce pas? Et les autres disent, c'est parce que je n'ai pas une femme que je suis en train de pécher.
Ok, laisse-moi lire ça. Verset 5 de Hébreux 13, il dit, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. » Contentez-vous de ce que vous avez.
Alors, ça veut dire il faut rester sec.
Non, ça ne veut pas dire ça. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ça, c'est une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin.
Amen.
Dieu a
Amen.
Dit, je ne te délaisserai point, mais je ne ressens pas sa présence. Nous vivons par la foi, non pas par la vue. Arrêtez de vous fier à vos sentiments, à vos émotions. Commencez à vous fier à la parole de Dieu. Dieu a dit, si tu m'invites, je viens. Je frappe sur la porte. Si vous ouvrez la porte, je viendrai, j'entrerai chez vous et je supperai avec vous, la parole de Dieu dit. Il dit, Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, quand Dieu dit quelque chose, nous devons répondre. Amen. Si Dieu m'a dit France, mais moi je n'aurais rien dit, on ne serait jamais arrivé ici. Si Dieu m'avait dit, oui, demandez à cette jeune, intelligente, belle Laura sa main en mariage. Mais je ne suis pas allé la trouver et lui demander, est-ce qu'on serait mariés?
Non, oh. Il aurait raté le meilleur fait de sa vie.
Amen. J'aurais raté cela. Et j'ai vu des gens rater cela.
Moi aussi.
Oh, mais... J'aime ma femme. Je crois que j'ai la meilleure femme
celui
du monde.
Celui qui tue une femme, tue un bonheur. Alors, tous les femmes disent « Amen ».
J'ai dit « Je crois que j'ai la meilleure femme du monde, je suis désolé pour tous les autres. »
Non.
Donc, on va discuter après, d'accord? J'espère que vous avez la meilleure femme pour vous, mais j'ai trouvé la mienne. Ouais, et vous savez, il faut chérir ce que Dieu nous donne. Et il faut...
Plein de bisous, plein de tendresse, oh, plein d'argent de poche.
Ouais, il faut vraiment... Vous savez, quelquefois...
Des choses pratiques dans la vie, d'accord?
Quelquefois, nous traitons les personnes les plus proches de nous le plus mal. Et les gens, les étrangers, on les traite avec toutes sortes de respect, de gentillesse. On est gentil avec les inconnus. et méchant avec les gens qui seront là d'ici 5, 10, 20, 30, 40 ans.
Qui devait être là. Oui. Quelquefois, mais maman, il se laisse.
Ok, il dit que nous pouvons dire avec assurance, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien que pour me faire un homme. Dieu dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te laisserai pas. Nous devons répondre. Je déclare, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien que pour me faire un homme. Il faut que vous décidez de prendre le volant. Vous, l'homme intérieur, la personne qui a accepté Jésus, celui qui doit régner dans votre être entier, il doit prendre le volant et dire, je vais dire. Je ne vois rien peut-être, mais je vais dire, j'ai un travail. Vous ne voyez rien pour le moment, mais vous allez dire, j'ai un appartement.
Amen.
Vous voyez que des symptômes dans votre corps, et peut-être les médecins ont dit, ça va être comme ça, et comme ça, et comme ça, et vous dites, je déclare, Dieu est celui qui me guérit. Je déclare la guérison, là où les médecins disent que je ne vais jamais récupérer. Quand Rebecca a eu son accident, vous savez, on n'a pas beaucoup parlé des difficultés de notre vie parce qu'on ne trouve pas l'apôtre Paul en train de parler tout le temps de ces difficultés. Et je ne crois pas, Église, que vous voulez venir nous entendre raconter tous nos problèmes. Moi, je crois que vous voulez qu'on vous raconte la parole de Dieu et les solutions. J'ai raison ou pas? Amen. Parce qu'après un moment, j'ai marre quand j'entends les gens toujours raconter les problèmes, les problèmes. Donc, nous avons peu dit, mais Rebecca a eu un accident grave. Ouais. À l'âge de 18 ans, elle était renversée par un cycliste, donc un petit bonhomme de 137 kilos. Elle pesait 55. Elle a sauté dans l'air, elle est tombée sur ses dents, ouais, sur son coudre, cassé les dents en deux. Moi, j'ai vu le médecin, le dentiste, enlever ce qui restait, mettre des pions. Vous savez, quand vous avez une petite fille, une jeune fille, de 18 ans, tout belle, cassée le nez. Elle a passé les 5 jours de la Pentecôte à l'hôpital. C'est la première fois que je vais laisser Rebecca à l'hôpital. Ouais. On a eu besoin de payer beaucoup, beaucoup d'argent. Ouais. Et c'était horrible. Mais nous avons déclaré la parole de Dieu. Et les médecins ont dit, parce que Rebecca est très, très grande sportive comme sa maman, et nous avons déclaré, elle a déclaré parce que le médecin a dit, jamais vous allez pouvoir servir, jamais vous allez avoir l'extension totale de votre coudre. Et nous avons déclaré, Rebecca était la première à le dire, parce que c'était quand même la sienne, pas le mien. Ouais. Elle a dit, je retrouverai tout le mouvement.
Oui, amen.
Amen. Et j'ai vu des gens qui sont d'accord avec les médecins, et qu'ils n'ont jamais retrouvé leur pleine santé. Jamais retrouver tout le mouvement, parce que les médecins ont dit, ils ont décidé de s'accorder avec le médecin. Mais nous avons toujours dit, s'il faut avoir l'intervention, fais l'intervention, mais déclare un miracle pendant l'intervention et pour récupération miraculeuse. Amen. Il faut que nous parlons, il faut que nous décidons, il faut que vous, tous nos étudiants, tous les jeunes ici, il faut que vous commencez à dire, je vais réussir ma vie. Je vais trouver le chemin que Dieu a pour moi. Je vais rencontrer cette âme sœur, cette personne avec qui je vais passer le reste de ma vie. Je vais vivre bien. Il faut que vous commencez à le dire. Ne laissez pas les autres vous dire, vous êtes comme ceci et vous êtes comme ça, parce qu'ils vont mettre des limites autour de vous. Ils vont essayer de vous mettre dans une boîte. Le monde aime nous mettre dans une boîte et après enterrer la boîte. Et nous avons besoin de pousser les murs d'une boîte et dire, je suis qui je suis par la grâce de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul a dit, et après il dit, et sa grâce envers moi n'a pas été en vain. Et je veux vous encourager, Église. Prends la direction de votre vie. Commence à tourner le gouvernail. Commence à tourner le volant. Commence à dire, voilà ce que j'ai lu dans la Bible. La Bible dit que je serai toujours en haut et jamais en bas. La Bible dit que j'ai des mains prospères. La Bible dit que Christ a porté mes maladies, qu'il s'est chargé de mes infirmités et par ses maîtres sur j'ai été guéri. Amen. Que le faible dit je suis fort. Que le pauvre dit je suis riche. Que le malade dit je suis guéri. Et vous nous promet, si vous laissez votre langue s'accorder avec la parole de Dieu, s'accorder avec ce que Dieu met dans votre cœur, ces choses vont se passer. Il ne va pas arriver demain. Il se peut que ça va prendre une semaine, ou un mois, ou peut-être une année, ou peut-être 5 ans, ou peut-être 10 ans. Moi, je vois l'accomplissement des choses que Dieu nous a dit presque 30 ans passés. Je vois ces choses. Certaines choses ont pris beaucoup de temps à arriver. Mais c'est comme mes enfants. Ils ne sont pas devenus grands du jour au lendemain. Ça les a pris 18-20 ans. Amen.
Moi j'ai un avertissement de la part de Dieu pour vous, mes amis. La Bible dit que pour me faire un homme. Un homme peut vous faire perdre tout ce que vous avez. Gardez votre foyer. Gardez votre lit. Et si vous n'êtes pas marié, restez seul dans votre lit. Jusqu'à ce que vous êtes marié.
Ça, c'est mon conseil.
Amen. Parce que tu sais, il y a trop de gens qui regardent le feuilleton, qui regardent tout le reste, et croient que c'est mieux l'autre côté de la barrière. Et croient que si je saute au lit avec cette personne, ça va me combler et tout le reste. Mes amis, tout le monde a les mêmes outils. Il faut prendre le temps pour apprendre à les utiliser dans le contexte d'un mariage chrétien. D'accord? On ne regarde pas dans le monde pour satisfaire ce qu'on a. Tu sais, l'acte sexuel, c'est fabuleux, mais quand il y a l'onction de Dieu et la complicité de vos cœurs, ça fait quelque chose de spirituel qui est beaucoup mieux. Ouais,
Alors, ne laisse pas
votre mariage à la dérive.
La sexualité n'est pas un acte animal. Nous ne sommes pas des animaux. Même que le monde veut nous faire de nous des animaux, nous ne sommes pas. Moi, j'étais en train de penser à ça encore ce matin. Les gens ont besoin de beaucoup de foi pour croire que nous sommes le résultat de l'explosion. Parce que quand je vois les explosions aujourd'hui, il n'y a que du dégât. Il n'y a pas des petits animaux qui arrivent en résultat. Il n'y a pas des êtres humains qui sortent de l'explosion. Oh, je n'étais pas là avant, mais il y a eu une explosion. Et maintenant, je suis là. Je suis désolé. Mais il faut avoir une grande foi pour croire que ce monde est arrivé par hasard. Il y a un créateur. Il est notre Dieu. Et il veut être ton Père, s'il n'est pas encore. Amen. Et nous avons besoin de mettre notre main dans sa main. Si vous croyez qu'un homme ou une femme peut combler votre vie, vous avez tort. Il n'y a que Jésus qui comble notre vie. Et c'est Jésus qui nous met avec l'homme. Ça, je veux lire encore verset. Marc chapitre 11, verset 23. Okay. Je veux terminer avec ça. Marc 11, 23. On ne se dispute jamais.
Oui, oui, mais ensemble. Tu comprends? C'est dur l'été pour le monsieur, madame. C'est dur l'été pour les hommes. Parce que les femmes sont presque nues, même au grand service partout. Alors, quand vous êtes quelque part, mettez un bon soutien-gorge.
S'il vous plaît.
Monsieur, quand vous êtes quelque part et les femmes ne sont pas bien habillées, tournez le regard ou allez quelque part ailleurs. Tu comprends? Ne vous mettez pas dans une situation de tentation. Amen. Parce qu'on est, créé de chair et os. Et notre chair aime un chair. Mais Dieu veut un chéri qui va vous aimer pour l'éternité.
Le Seigneur m'a donné cette parole, vous savez, monsieur. Quand vous voyez une jolie fille, soyez pas stupide. Ouais. On ne dit pas qu'on ignore. Ouais. Quand une jolie fille passe, vous avez le droit de dire, ça c'est une jolie fille. Amen. Mais de le suivre, ça c'est ignorant, d'accord. Avec le regard, c'est de mépriser cet être humain. Mais aussi, si vous êtes célibataire, ou si,
Tu le déshabilles avec tes yeux, là tu es vraiment dans le péché. Répondez-moi.
Ce que moi j'ai appris à faire, c'est quand je vois une jolie fille, oui, je dis, ça c'est une jolie fille, une jolie femme. Et merci Seigneur pour ma femme.
Mais c'est moi.
Et si vous dites, mais moi je ne suis pas marié, vous êtes en train de le dire par la foi. Oui, parce que nous ne voulons pas voir une femme nue. Nous voulons avoir notre femme dans notre lit. N'est-ce pas, monsieur?
Oui.
Amen.
Amen.
Non, parce que le monde vous
envoie. Et nous aussi, n'est-ce pas, madame? Amen.
Non, on va encore deux minutes.
Mais
vous pouvez, si vous voulez, oui, passer votre temps à regarder la pornographie. Ah, tu as seulement besoin d'allumer la télé aujourd'hui, et presque tous les films, il y a des scènes nues, il y a toutes ces choses. Et si ça, c'est ce que tu veux, continue. Mais si tu veux avoir votre vie, votre propre vie, satisfaite, sexuelle, donc, et comblée, il faut laisser ça. Parce que ça, c'est du cinéma. Donc, beaucoup de gens aujourd'hui prennent le cinéma au lieu de la réalité. Ils ont une vie virtuelle au lieu d'une vie réelle. Moi, je suis concerné pour les jeunes aujourd'hui qui préfèrent envoyer un texto que de parler face à face avec quelqu'un. Qui sont derrière leur écran d'ordinateur en train d'envoyer les chats et toutes les choses. Il y a des gens sur Facebook, mais ils ne sont pas dans la vie. Ils sont là tout le temps. Je dis, mais comment? Moi, je mets quelque chose chaque jour sur mon Facebook pour que mes amis à travers le monde puissent savoir où je suis. Je regarde peut-être en 2-3 minutes où sont mes amis et les choses comme ça. Mais après, je vis ma vie.
Je suis allé aux toilettes. Tu vois chaque chose que je fais dans la vie.
merci. Mais il faut décider, vous voulez être spectateur ou est-ce que vous voulez être sur le terrain jouer? Parce que c'est bon, moi j'aime regarder un petit peu le tennis, donc j'espère que Federer va gagner cet après-midi, je ne sais pas comment vous êtes, oui, je ne sais pas pour qui vous êtes pour le Tour de France, mais c'est bon de regarder un peu. Mais si on vit tout le temps virtuellement par quelqu'un d'autre, on n'a pas de vie. Moi, j'ai une vie avec ma femme, avec mes enfants, avec mes amis. Je vous aime, j'aime passer du temps et vous parler face à face. J'aime vous connaître. Elle est merveilleuse, n'est-ce pas? Tu vois pourquoi je la garde? Elle me garde aussi. Ouais. Non, vous savez, si vous êtes...
Si pour garder un mariage, il faut savoir pardonner.
Ouais.
Parce que sinon, ça ne tient pas la route.
Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils discutent jamais, mais on se demande s'ils parlent. Ouais. Parce que si vous parlez, vous aurez énormément de disputes sur les bêtises. C'est toujours une petite chose qui devient trop importante. Mais vous savez, ce n'est pas grave si on apprend à se pardonner réciproquement.
Ça veut dire... Parce que l'homme est le chef de la famille, c'est lui qui devait demander pardon d'abord.
Et madame, si elles ne l'ont pas, vous le faites. N'attendez pas l'autre. Il y a des gens qui ne parlent plus avec un membre de leur famille depuis 20 ans parce qu'ils attendent que l'autre fasse le premier pas. Écoutez mes amis, nous sommes chrétiens. Dieu a déjà fait le premier pas. Faites le deuxième pas si c'est nécessaire. Mais ne dites pas moi, je fais le... Non, Jésus a fait le premier pas pour toi. Amen. Donc si vous attendez que quelqu'un vienne demander pardon, d'abord avant qu'ils arrivent, vous les pardonnez. Ne gardez pas quelque chose contre quelqu'un. Je m'éloigne. On y va. On termine avec ceci. Peut-être un verset le plus important de la Bible. Jésus dit, ayez foi en Dieu. Vous êtes là, Marc 11, 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, qu'est-ce qu'il dit? Il le verra s'accomplir. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il est en train de dire, ta langue, ta bouche, c'est le volant de ta vie. C'est le gouvernail de ton bateau. Amen. Il faut que vous mettez devant vous les paroles. Je vais gagner. Je vais réussir. Je vais m'en sortir. Mon mari sera sauvé. Mes enfants marcheront avec Dieu. Vous voyez, cette membre de la famille va être guéri. Je mets ça devant moi. Je vais réussir dans mes études. Je vais réussir dans mes affaires. Il faut commencer à le dire. Il dit, parle à la montagne. Et je vous donne deux voix. Pour ceux qui n'ont pas lu dernièrement, l'histoire de David et de Goliath. Vous le retrouverez en 1 Samuel 17. C'est absolument formidable parce que David est allé voir ce frère parce que son père l'a envoyé et il a fini en tuant un géant qui avait fait peur à tous les autres. Et je veux vous poser une question et vous pouvez regarder. Comment est-ce qu'il a battu et tué ce géant? Et j'espère que vous allez pouvoir revenir la semaine prochaine avec la réponse. Voulez-vous lever? Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.